Chapitre 16. Bruno et Floriane voyagèrent beaucoup cet été-là. Un peu partout, en France et à l'étranger, on les demandait. Floriane jouait admirablement les rôles de grande coquette dans les représentations organisées sur les théâtres mondains. Bruno faisait des conférences très remarquées. On les recherchait fort tous deux et les succès les plus flatteurs leur étaient partout acquis. L'Anjou ne les revit pas. Bruno n'écrivait plus que des lettres rares et brèves. Madame Ferrière, sans que nul s'en doutât, menait une vie d'expiation pour le salut de son fils. Devant la Vierge de bois, elle criait sa douleur et ses supplications. Son fin visage prenait une teinte jaunie comme celui de la vieille statue, des rides menues s'y entrecroisaient et les yeux, toujours éclairés par une lumière intérieure, paraissait plus foncé et plus grand à cause de l'ombre bleuâtre qui les cernait. Quand elle fit son voyage annuel à Paris, en janvier, elle n'y trouva que Floriane. Bruno, déclara la jeune femme, avait été appelé en Allemagne pour une affaire de traduction. Madame Ferrière ne s'y trompa point. Son fils fuyait devant elle, il craignait ses reproches, ou peut-être seulement les souvenirs qu'elle apportait avec elle. Son mari la ramena malade à Sarget. Vers cette même époque parut la nouvelle œuvre de Bruno. Madame Ferrière la lut aussitôt et, quand elle eut fini, de nombreuses pages étaient tachées de ses larmes. Elle écrivit à son fils en laissant parler tout son cœur de mère et de chrétienne. Bruno décacheta la lettre, lut les premières lignes. « Mon malheureux et cher enfant, je viens te supplier de m'écouter. » D'un geste violent, il froissa le papier et le déchira en murmurant « Tout cela, c'est le passé, qu'on ne m'en parle plus. » Il menait avec fièvre l'existence mondaine, il s'étourdissait dans le travail et les plaisirs pour ne plus penser à ce qu'il laissait derrière lui. Son ouvrage obtenait un accueil enthousiaste. Personnellement, il était l'objet d'un engouement qui achevait de l'enivrer. À peine de temps à autre, quelque incident venait-il réveiller les souvenirs fâcheux ou faire surgir une vision menaçante. Il voulait oublier, il y parvenait presque. Il s'éloignait d'Henri de Marge malgré les efforts de celui-ci. Il s'éloignait de tous ceux qui avaient connu et aimé le Bruno d'autrefois. Son orgueil se refusait à affronter leur jugement et son âme déchue avait peur des impressions qu'elle trouverait près d'eux. Vers le mois de février, l'abbé Rivord vint à Paris, résolu à voir son cousin, à tout tenter pour le ramener à Dieu. Sans prévenir, il sonna un matin à la porte du très bel appartement que le jeune ménage occupait depuis quelques mois. Le domestique, en le toisant d'un coup d'œil rapide, répondit que monsieur était sorti. « Quand rentrera-t-il ? » demanda le prêtre. « Je ne sais, monsieur. »« Pour déjeuner, probablement. » « Je ne puis en assurer, monsieur. »« Eh bien, je l'attendrai, » dit délibérément l'abbé. « C'est impossible. Monsieur m'a défendu. Je suis son cousin. » Écartant du geste le domestique, visiblement embarrassé, il entra dans l'antichambre. « Je vais attendre ici. Ne vous occupez pas de moi, » dit-il en avisant un fauteuil. Le domestique disparut. Quelques minutes plus tard, une porte s'ouvrit derrière l'abbé, un bruit léger se fit entendre. Il se leva, se détourna et vit devant lui Floriane dans sa robe d'intérieur aux longs plis flottants. « Vous, mon cousin, quelle surprise !» Il dit nettement, sans paraître apercevoir la main qu'elle lui tendait. « Je viens voir Bruno. Il est là, n'est-ce pas ?»« Non, il n'y est pas. Je l'attendrai tant qu'il faudra. » « C'est inutile. Pourquoi ? Venez, j'ai à vous parler. » Elle poussa une porte et il entra à sa suite dans un petit salon où le goût très raffiné de Floriane se distinguait dans tous les détails. La jeune femme désigna un siège à l'abbé et s'assit en face de lui. « Vous ne verrez pas Bruno parce que je ne le veux pas, voilà, » dit-elle sans préambule. Vous me permettrez de croire mon cousin libre de recevoir qui lui plaît, riposta froidement l'abbé. Qui lui plaît, mais c'est que, précisément, il ne lui plaît pas du tout de vous voir. Il vous l'a dit? Certainement, il sait d'avance ce que vous lui direz et il ne veut pas l'entendre. Peu importe, j'aurai du moins fait mon devoir. Non, je ne veux pas que vous l'ennuyiez de vos sermons inutiles. Inutiles, entendez-vous? Car il est maintenant si loin de vous, si loin de ce que vous lui avez appris. Et réussiriez-vous à changer un instant ses idées, à quoi vous servirait ce léger succès? Un moment après, je l'aurais repris. Non, non, n'essayez pas de lutter contre moi, monsieur l'abbé. Sa mère a échoué, et comme il l'aimait cependant. Eh bien, aujourd'hui, il ne lit plus ses lettres. L'abbé eut une exclamation. Est-ce possible? Absolument certain. Il m'a tout sacrifié, famille, religion, petite patrie. Prenez-en votre parti, Bruno est perdu pour vous. Jamais je ne vous le rendrai. Pour toute sa vie, il est à moi. Pour toute sa vie ? L'abbé se levait en abaissant son regard douloureux et indigné sur la jeune femme qui lui apparaissait tellement effrayante dans sa tranquillité passionnée. Mais après, vous ne pensez pas à cela, vous qui ne croyez pas. Lui, c'est autre chose. Il viendra un moment où vous ne lui suffirez plus, bientôt peut-être. Une foi telle que la sienne ne meurt pas complètement. Peu de choses suffira à la faire renaître. Alors, il verra le vide de son âme, il connaîtra la torture du remords, et toute l'ivresse que vous lui versez aujourd'hui deviendra impuissante à apaiser ses tourments, car celui qu'il cherchera dans les ténèbres de son péché sera le Dieu dont vous l'avez éloigné. Florian s'enfonça dans son fauteuil d'un gracieux mouvement félin et dit avec calme « Je prends sur moi toutes les responsabilités présentes et futures. » « Vous en aurez en effet la plus grande part, mais celle de Bruno est terrible encore. C'est pourquoi je dois lui parler. » « Il se doutait de votre venue et m'a déclaré qu'il ne voulait pas vous voir. » « Il a peur de moi, c'est bon signe. Je le verrai. » « Non, monsieur l'abbé. » Elle se leva en le regardant avec un paisible défi. « Vous me craignez donc pour lui, vous aussi ?» dit le prêtre. « Non, aujourd'hui je ne crains plus personne. Si Bruno ne m'avait fait connaître sa volonté de ne pas vous voir, je vous laisserais entrer. Vous jugeriez du premier coup d'œil que votre temps serait perdu à le sermonner. » L'abbé dit sur un ton de sévère tristesse « Vous faites le malheur de celui que vous prétendez aimer, madame. » Elle secoua doucement la tête en souriant. « Je suis sa joie. » Toutes les joies de ce monde sont caduques. Nous boirons la nôtre jusqu'à la dernière goutte. » Elle parlait toujours avec le même calme, mais une vie impérieuse et brûlante paraissait dans ses yeux. Le prêtre eut un douloureux serrement de cœur. Cette femme lui barrait la route. Elle se révélait toute puissante, tenant entre ses mains l'âme de Bruno, devenue son jouet. Oui, il comprenait qu'elle disait vrai, en assurant que tout échouerait de ce qu'il pourrait tenter près de son cousin. « Que Dieu ait pitié de vous, madame » dit-il simplement. Il sortit, reconduit jusqu'à l'antichambre par Florian. Elle s'inclina et referma la porte derrière lui, lentement, sans bruit, comme elle faisait toute chose, comme elle avait pris Bruno. En dépit de cet échec et du peu d'espoir qui lui restait, l'abbé ne renonçait pas à essayer de voir son cousin seul. Chez lui, c'était impossible. Henri de Marge, qu'il alla consulter, lui dit « Il sera probablement ce soir à un dîner coffre au Riz pour fêter son 80e anniversaire, le poète Charles Évrard, un des plus chauds admirateurs de Bruno. Là, celui-ci viendra seul. Tu pourrais te trouver vers 8 heures près de l'entrée et tâcher de lui parler. » « Oui, je n'ai que cette ressource. J'irai pour accomplir mon devoir jusqu'au bout. Mais, hélas, pauvre enfant !» Le temps était froid, une bise un peu aigre gelait la figure de l'abbé, tandis qu'il se promenait de long en large aux alentours de l'hôtel. Pour ne pas se faire remarquer, il avait quitté son costume ecclésiastique. Et il songeait à tout le passé, au jeune Bruno fervent et affectueux, aux ardents enthousiasmes de l'âme qu'il avait si bien connue. Pauvre âme orgueilleuse et faible. Une compassion douloureuse étreignait le prêtre à la pensée de ce qu'elle était devenue. Des voitures s'arrêtaient à tout instant devant l'hôtel. Les chasseurs s'empressaient, ouvraient les portières. Des hommes en tenue du soir descendaient et entraient dans le hall illuminé. L'abbé, immobile maintenant, guettait, surveillait chaque arrivant. Bruno n'avait pas encore paru. Un cabriolet vint s'arrêter au bord du trottoir, tout près du prêtre. Une main nerveuse ouvrit la portière, un homme jeune et mince descendit. L'abbé s'avança vivement. « Bruno !» Bruno eut un haut-le-corps, un mouvement de recul. Son cousin lui prit la main. « Il faut que je te parle. » Déjà, Bruno se ressaisissait. « Impossible, » dit-il froidement. « Je suis attendu, il est tard. » Ce que j'ai à te dire est plus important que ce dîner où l'on fête un poète contempteur de ta religion. » Bruno retira brusquement sa main. « Pas un mot de plus, je ne t'entendrai pas, Jacques, c'est inutile, ce que je suis, je le resterai. » Une stupéfaction douloureuse s'emparait de l'abbé devant le changement physique dont l'avait cependant prévenu Henri de Marge. Le fin visage était amaigri, semblait s'allonger, la bouche conservait un pli d'ironie lassée, les yeux, les beaux yeux bleus, si purs autrefois, s'emplissaient d'ombres inquiétantes. La tenue, d'une élégance raffinée, ne rappelait en rien non plus celle toujours correcte mais simple du Bruno de jadis. Il comprit alors les paroles de la jeune femme. « Vous jugeriez du premier coup d'œil que votre temps serait perdu à le sermonner. » « Mon ami, écoute-moi !» Un geste bref l'interrompit. « Inutile, te dis-je, ce qui est fait est fait. Ne parle pas, ne me rappelle rien. Laissez-moi tous. Je me suis séparé de vous, je ne suis plus des vôtres. Adieu !» Bruno s'éloigna rapidement et entra dans le hall. Le prêtre suivit d'un regard douloureux sa mince silhouette. D'autres invités venaient à lui, la main tendue. Puis tous disparurent dans un des salons. L'abbé, à travers la nuit humide, s'en alla vers l'hôtel de Marge. L'énergique jeune prêtre pleurait, car Bruno venait de faire le pas définitif qui le séparait des siens.